Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au podcast de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie de Pixel.
My mojito is ready.
De Dwayne.
My body is ready.
Et de Morhan. T'es pas obligé de dire quelque chose, Morhan, je te rassure.
Salut tout le monde.
Non, parce que je sens que là, ça risque d'aller loin.
Ça va déraper cette histoire.
Voilà. Au sommaire de l'actualité cette semaine, on vous reparlera de Zwei, on enchaînera sur Dark Souls, on évoquera également Monster Hunter World sur PC, nous évoquerons le coup de cœur de Pixel, un jeu avec des samouraïs, on enchaînera ensuite sur le gros morceau de la semaine qui est le Nintendo Direct, et enfin, on terminera par la présentation d'un jeu en accès anticipé, et qui l'est d'ailleurs depuis un certain nombre d'années.
Oh oui.
D'où l'intérêt de venir dessus, n'est-ce pas? Et ce jeu, c'est The Forest. Alors, messieurs, on va commencer avec un jeu qu'on avait déjà évoqué ici. C'était juste pour vous annoncer sa date de sortie. C'est un jeu dont on vous a parlé dans le podcast numéro 248. Et ce jeu, c'est Zwei The Arch Adventure. C'est le premier épisode d'une géologie, n'est-ce pas? Le deuxième épisode étant sorti en Occident avant le premier, qui, je rappelle, devait sortir en hiver 2018, sans plus de précision. Bon, il se trouve que hiver 2018, c'est janvier. Donc, il sortira le 24 janvier. Voilà, rien de plus à ajouter, si ce n'est que je serai au rendez-vous, à moins que le portage soit foiré. Mais bon, a priori, c'est du Xseed, il bosse avec Durant, tout ça, donc je fais confiance. On va enchaîner, mon cher Pixel, avec Dark Souls, ouais, qui a eu droit à une petite nouvelle durant la conférence Switch qu'on évoquera tout à l'heure, mais là on a décidé de commencer avec lui parce qu'il le veut bien.
Voilà, grosse annonce cette semaine pour Dark Souls, pour les fans de Dark Souls, le tyran. Je sais que tu es fan.
Oui.
Moi aussi, surtout le premier.
Je ne suis pas seul, ce que j'allais dire.
Voilà, nous ne sommes pas les seuls. Et Dark Souls, on l'attendait plus.
Oui, parce que moi, on m'avait dit, oui, la série est morte,
oui,
tout ça,
oui,
on passe à autre chose.
Voilà. Toujours comme ça. Et bah là, on a eu une annonce officielle de From Software qui nous dit que Dark Souls Remastered, voilà, en version remasterisée, ça va sortir le 25 mai 2018, c'est dans pas longtemps. Et ça sort sur PC, sur PS4, sur Xbox One et sur Switch. Je tiens à dire tout de suite que la version Switch, elle sera en 720p 30fps direct. La version PC, elle pourra monter jusqu'à 4K, donc plutôt intéressant. Et les versions PS4 et Xbox One seront au minimum en 1080p 60fps.
Ce qui est un minimum, disons-le.
Voilà.
Vu la gueule de Dark Souls, voilà.
Il existe une vidéo teaser qui est sortie, qui ne nous montre absolument rien puisque c'est un teaser. Et justement, du côté de la communauté des PCistes, il y a une espèce de psychodrama qui s'est créé là, pour savoir si les détenteurs de la version originale sur PC, la version Steam, vont avoir une réduction ou pas pour l'achat de cette version remasterisée.
Cela dit, c'est un peu la faute de Namco, parce que il se trouve qu'à la base, c'est eux qui ont marqué sur leur site officiel, sur la page de précommande, 50% de réduc pour vous autres PCistes qui avez acheté l'original. Sauf que, mon cher Pixel, il y a eu un petit contre-temps, n'est-ce pas?
Ouais, parce que en fait, c'est un peu le syndrome annonce de la Xbox One il y a quelques années, souvenez-vous, où tout le monde disait absolument tout et n'importe quoi, tout le monde balançait sa version de « Ah oui, alors c'est full online ou pas online ». Et ben là, c'est pareil, est-ce que c'est nouveau moteur, pas nouveau moteur? Est-ce qu'il y a une réduction, pas de réduction, des nouvelles armes, pas de nouvelles armes? On ne sait rien, tout le monde semble dire tout et n'importe quoi. Les journalistes ont aussi des sources internes apparemment qui sont toutes décapitées les unes après les autres par From Software et sa clique marketing, on va dire.
Oui, parce que en fait, ce qui s'est passé, en gros, si j'ai bien compris, c'est que PC Gamer est allé interroger quelqu'un en interne.
Voilà.
Et que ensuite, le community manager de From Software sur Steam a dit « Non, mais ce gars, il sait pas de quoi il parle. » Donc, en gros, au départ, ils ont infirmé le fait qu'il y aurait une réduction. Ils ont retiré, attention, chose importante, l'info des 50% de réduction de la page de précommande. Donc, a priori, le fait qu'ils l'aient retiré, ça confirme qu'il n'y a pas de réduction. Enfin, sinon, pourquoi le retirer, tu vois? Enfin, ça n'a aucun sens. Et derrière, t'as le community manager qui te dit « Obi-Wan Kenobi ». Alors, je peux pas vous dire qu'il y a 50% de réduction, mais je peux pas vous dire non plus qu'il y en a pas.
Ça s'appelle assurer ses arrières. Le mec, il a pas envie de se prendre en sandwich. Surtout vu que il est community manager et donc ils sont un siège éjectable comme tous les community managers de toute façon. Donc le mec dira rien. Tout ce qu'il dit, c'est qu'il a des infos, mais qu'il les communiquera en temps voulu. C'est-à-dire quand From Software voudra bien l'autoriser à le faire.
Est-ce que tu trouves pas que l'annonce a été particulièrement mal faite? Enfin, je veux dire, c'est quand même un remaster. Toutes les infos dont on a parlé là, je veux dire, c'est quand même pas compliqué de éclaircir ça tout de suite, quoi, en fait. Pour refaire un teaser comme
ouais,
ça.
Ouais, mais j'ai envie de dire que ça vient de From Software, ça vient du Japon, que les Japonais, peut-être qu'ils réfléchissent pas de la même façon, enfin, ils perçoivent pas le problème de la même façon, et peut-être qu'ils comprennent pas, et que pour eux, c'est tout à fait normal de faire ce qu'ils ont fait. Alors que pour nous, les Occidentaux, bah, ça va pas, il faudrait éclaircir tout de suite, mais ils le feront en temps voulu. Jusqu'au mois de mai, ils vont nous balancer certainement des screenshots, des vidéos, tout ça, tout ça. Et ils ont pas envie de claquer toutes leurs billes, en fait, dès le début. Donc, on attendra.
Alors, ce que là, on en arrive à mon coup de gueule. Bah, sérieux, les mecs, c'est un remaster, quoi, arrêtez. Enfin, même si c'est un nouveau moteur, sérieusement. Ce serait quand même un minimum, je trouve, de filer une réduction aux gens qui ont acheté l'original sur PC. Alors que vous n'avez jamais été foutu de le patcher et qu'il a fallu attendre que ce soit un fan qui fasse le boulot à votre place, quand même. Surtout que derrière, faut donner des raisons de l'acheter, ce remaster. Alors, en fait, le plus intéressant dans l'histoire pour moi, c'est la version Switch, même si je suis pas sûr que Dark Souls soit adapté en tant que jeu pour une expérience portable, dirons-nous. Mais la version PC, je veux dire, si c'est pour avoir des textures plus belles, etc., moi je télécharge un mod, hein. J'ai pas besoin de payer 40 balles pour ça. Bon, à part ça, est-ce qu'il y a besoin de faire un teaser de ouf malade pour un remaster d'un jeu que tout le monde a torché, retorché? À un moment, ça va, quoi. Faut arrêter. J'ai l'impression qu'on avait fait The Gros Annonce, tu vois, et tout. Ouais, oh là. C'est un jeu de la génération précédente, hein. Stop, quoi.
Mais il est attendu, il est attendu.
Après, derrière, je pense qu'il y a aussi, parce qu'il y a quand même toute cette, pas hype, mais il y a une aura derrière Dark Souls, et il y a quand même plein de gens, effectivement, dans la sphère, on va dire, purement gamer, ceux qui suivent, tous ceux qui ont une affinité pour ce type de jeu l'ont déjà fait, mais il y a une autre strate de gens qui jouent, et qui, eux, sont beaucoup moins informés. Je sais, par exemple, si je regarde mes collègues, etc., qui jouent un peu aux jeux vidéo, ils sont pas forcément très informés sur des choses qui auraient pu leur plaire comme Dark Souls, mais qui connaissent pas. Donc avec ces remasters, le fait que ça arrive aussi sur Switch, même si effectivement sur Switch, ce sera pas l'expérience optimale comme pour des jeux comme Doom ou Wolfenstein.
Je me rappelle, on évoquait ça quand Morin avait fait son test de Mario Odyssey, où il disait qu'ils avaient mis plein de lunes. Pour que, voilà, tu joues voilà, un peu, ça. Tac, tu vas récupérer ta lune, t'arrêtes ta console, point. Dark Souls, c'est pas ça, hein. Dark Souls, c'est, t'as un feu de camp, t'en as à 3 milliards de kilomètres.
Ouais, c'est pas le truc que tu fais dans le
et
bus.
Et entre-temps, tu sauvegardes pas, tu vois, donc, ouais, donc voilà, bon, c'est pas tout à fait la même
expérience.
L'avantage,
c'est que tu peux mettre la Switch en veille assez facilement, ouais, donc ça fait le même effet, hein.
Bon, quoi qu'il en soit... Ouais, ouais, honnêtement, j'aurais préféré qu'ils annoncent un remaster ou un remake de Demon's Souls, parce que Dieu sait que lui, il en a bien besoin. C'est un jeu qui a pas été imprimé à beaucoup d'exemplaires. Et en plus, c'est un jeu aujourd'hui qui, soyons très honnêtes, a une sale gueule. Hein, voilà. Et qui a pas mal vieilli, en plus, sur un certain nombre d'aspects. Après, effectivement, Demon's Souls, c'est un jeu qui appartient à Sony. Et tu peux pas le sortir sur tous les supports possibles, imaginables. Pixel.
Ouais.
Toujours dans le domaine de Dark Souls, on a eu une autre annonce, alors là, qui pour le coup, je pense qu'on sera unanime ici, n'emballe pas grand monde, mais...
Sauf ceux qui ont de l'argent acheté par les fenêtres.
Voilà.
Enfin, beaucoup d'argent. Eh bien, tout simplement, From Software en a profité. Hein. Ils sont partis sur leur lancée pour les mauvaises news. Enfin, les mauvaises news, c'est une façon de parler, ça dépend d'où on se place. Bien
oui.
sûr. Mais là, From Software a annoncé la Dark Souls Trilogy exclusif à la PlayStation 4 qui sortira au printemps 2018 et pour l'instant, ce n'est confirmé qu'au Japon.
D'accord.
Si ça marche au Japon, ça sortira peut-être ailleurs dans le monde. Et la Dark Souls Trilogy, qu'est-ce que c'est donc? En fait, c'est un coffret qui regroupe les trois Dark Souls en version définitive avec tous leurs DLC, plus Dark Souls Remastered. On a la bande originale des trois jeux au format CD. On a un serre-livre qui vous permet de caler vos livres et qui est en forme de statue, en fait, avec le personnage iconique de la série Dark Souls avec la fameuse armure, là. C'est une espèce de maquette en deux parties. La deuxième partie, en fait, c'est un feu iconique du jeu où tu sauvegardes tes parties. Et il y a aussi une encyclopédie des objets pour les trois jeux. Et enfin, une lithographie pour les trois jeux aussi. Et pour finir, le coup de massue.
Oui, parce que là, je veux dire, je vois pas le souci. Des collecteurs comme ça, il y en avait plein. Quel est le problème, Pixel?
Ah, le problème, c'est le prix, mec. Ça fait beaucoup de mojitos à boire, ça, parce que il y en a quand même pour $440 américains.
Ah.
Voilà. Ah, oui. Donc, ça fait très, très cher. Ça fait très, très cher.
Le prix d'une console pour, et encore, tu peux même en acheter deux pour ce prix-là, je crois.
Deux d'occasion, au moins. Voilà. Deux PS4 d'occasion pour ce prix-là, ouais. Tu peux, au moins. Tu peux. Et c'est bah voilà, j'ai tout dit. Pour l'instant, c'est réservé qu'au Japon.
C'est un objet de collection dispensable, quoi, dirons-nous.
Voilà, c'est que sur PS4, c'est que au Japon pour l'instant. Et on ne nous dit pas si les jeux seront zonés ou pas.
Juste un petit mot au passage sur ce phénomène qui m'agace depuis un certain temps. C'est le phénomène des collecteurs qu'on essaie de nous vendre hors de prix. Franchement, faut arrêter là. On se croirait sur le marché de l'art. Enfin. On te fait monter artificiellement le prix sur des trucs. Enfin, elle est très jolie la boîte de Dark Souls Trilogy. Hein, y a pas de souci, mais je connais des boîtes de jeux de plateau qui ont encore plus de classe et qui valent même pas 100 balles. Hein, et avec du matos dedans. Hein, parce que c'est à dire que on en discutait tout à l'heure, l'espèce de, enfin pas figurine, mais de statuette là, elle est même pas peinte.
Bah tu pourras le peindre toi-même.
Ouais, super. Bon après, précisons quand même une chose. Dark Souls Remastered n'est pas développé par From Software. Au moins, c'est déjà ça de gagné. From Software ne perdra pas son temps sur un remaster. Et pour moi, c'est l'essentiel. Honnêtement, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec leur licence. À la limite, ça ne dérange pas. Du moment qu'ils bossent sur autre chose qu'un remaster. Bon, on va parler maintenant, Dwayne, de Monster Hunter World.
Tout à fait. Donc, c'est le producteur Ryuzo Tsujimoto qui a, c'était pendant une interview, donc il y a eu plusieurs choses. Il s'est exprimé dans un premier temps par rapport au report de la version PC. On s'attendait effectivement, comme tu l'avais dit précédemment, à peu près à l'été. Et puis finalement, ça va être fin d'année, voire peut-être même repoussé encore plus. Donc, en tout cas, ce qu'il disait, c'est, comme on l'avait dit dans un premier temps, il y a cette histoire de ressources. Ils se sont concentrés au maximum sur les consoles. Et surtout, ils se sont rendus compte que le matchmaking et le online étaient un peu plus compliqués à mettre en place. Donc voilà, en tout cas...
C'est juste une précision par rapport au online et au matchmaking. Ça, c'est parce qu'ils veulent se passer de Steam. Je pense qu'ils ont à peu près le même système que celui qu'ils ont mis en place sur Dragon's Dogma. Dragon's Dogma, par exemple, c'est un jeu dont le online fonctionne sur GOG. Parce que sinon, Steam a exactement les mêmes outils que Sony et Microsoft. Hein. C'est aussi simple de mettre en place. Le seul problème, c'est qu'après, tu es dépendant de Steam. Voilà. Donc, je pense qu'ils veulent pas être dépendants de Steam. Et que du coup, comme ils veulent pas être dépendants de Steam, ça demande plus de temps. Par contre, bon, on voit que c'est des Japonais. Hein, parce que, je veux dire, n'importe quel autre développeur occidentaux, pourquoi les versions PC sortent en même temps que les versions consoles? Parce que les développeurs occidentaux, ils développent le jeu sur PC. Et ensuite, ils font les versions consoles. On voit que l'approche n'est pas tout à fait la même.
Donc en tout cas, ouais, un peu déçu à ce niveau. Il y a aussi, enfin très rapidement, il utilisait comme argument marketing le fait qu'il y aurait aucune microtransaction. Donc c'est la, un peu la bonne nouvelle, entre guillemets, même si c'est normal.
Oui, j'attends de voir, hein, parce qu'on connaît l'historique de Capcom avec Street Fighter V, par exemple.
Effectivement. Après, il répète ça depuis un moment, donc ça... Oui, c'est vrai qu'on peut avoir des doutes par rapport à la...
Tu me permettras d'être dubitatif.
Ouais, je comprends bien, je comprends. Mais bon, en tout cas, c'est ce qu'il répète
depuis
un moment.
Parce que autant quand on dit lootbox, ça je veux bien le croire, le fait de ne pas mettre des lootbox n'empêche pas de vendre des trucs à côté, autant aucune microtransaction, c'est quand même Capcom.
Ouais.
Voilà.
À voir, mais bon, c'est en tout cas, c'est ce qui est dit, parce que ce qu'il indiquait, c'est surtout que ça allait pas du tout avec l'esprit Monster Hunter. Le fun, c'est effectivement de traquer, de trouver tes différents objets. Enfin, c'est vraiment une partie importante du jeu. Donc voilà. Après, ce qui est compliqué, c'est effectivement que là, le jeu sort dès maintenant sur les consoles. Donc ça va être un peu dur de résister, mais bon. Enfin, personnellement, de toute façon, j'ai un backlog assez important, donc j'attendrai la version PC. Le problème, c'est même pas d'attendre, c'est qu'est-ce qu'il y aura à ce moment-là, en fait. Le catalogue est un peu vide, c'est fin janvier, donc on se dit, ouais, Monster Hunter, on était chaud. Mais à la fin de l'année...
Surtout, c'est un jeu qui demande du temps et de l'investissement.
Mais c'est
et
ça, c'est ça. C'est qu'à
en
la
fin d'année,
de l'année,
on n'aura peut-être
voilà.
pas de temps. C'est ça le problème, quoi.
Exactement. Donc, à voir.
Pixel, on va maintenant parler de ton coup de cœur de la semaine.
Exactement, ça s'appelle Bushido The Way of Men. C'est un RPG français, développé par deux personnes seulement. Ça se passe dans le Japon féodal avec les samouraïs, tout ça, tout ça. Et c'est un jeu qui a eu un projet Kickstarter qui a été malheureusement annulé parce qu'ils sont pas arrivés au bout. Ils n'ont pas récupéré assez d'argent.
Pour te dire, j'en ai même pas entendu parler. Donc, c'est dire qu'ils ont mal communiqué dessus. Hein.
Voilà, moi, je faisais des recherches et je suis tombé complètement par hasard dessus. C'est un jeu en deux dimensions,
ouais.
avec des dessins faits
assez
à
classe.
La main. Ouais. Assez classe. D'ailleurs, la direction artistique fait penser un peu à de la BD franco-belge. Ça se passe au Japon avec des samouraïs, mais c'est pas du tout dans le style Shonen Jump. Enfin, vous voyez le genre.
Ouais. Oui, c'est pas du manga. Hein.
Non, c'est pas du manga. C'est pas du tout japonais comme DA. Et j'ai envie de dire, ça fait du bien de voir une DA un peu différente quand on a un jeu sur le Japon féodal. Et c'est un RPG où on contrôle un samouraï qui se balade de village en village. On fait des missions, des quêtes. Il y a des combats au tour par tour. On va dire que c'est atypique. C'est complètement atypique. Et c'est pour ça que j'en ai fait un peu mon coup de cœur cette semaine. Parce que c'est un jeu qui mériterait d'être financé. Alors c'est pas parce que ils ont pas réussi leur Kickstarter qu'ils ont pas le droit de recommencer.
Oui, surtout que honnêtement, ils demandaient 10 000 euros sur le Kickstarter, avec ça tu vas pas loin, hein, surtout en France.
Voilà.
10 000 balles, ouais, tu payes quoi avec ça en fait ? Tu payes le matos quoi.
Ouais, ils payent le matos et ils payent certainement le des artistes de dé au forfait
oui.
quoi. Pas au moins, ils payent au forfait.
Mais du coup, ils ont donné des news sur ce qu'ils vont faire par la suite.
Bah en fait, sur leur site officiel, il y a pas grand-chose. Tout ce qu'on sait, c'est que le Kickstarter a échoué. C'est un peu au point mort. Alors ça les a peut-être un peu mis dans le blues, on va dire, quand les mecs sont un peu dépités peut-être. Mais j'ai envie de dire, il faut pas. Voilà, c'est pas parce que ton Kickstarter a échoué qu'il faut pas recommencer ailleurs.
Non, mais ça c'est le même problème que d'habitude. Hein, j'ai envie de dire. Je ne le répéterai jamais assez. Quand tu lances un Kickstarter, il faut avoir une communauté. Sinon, c'est même pas la peine. Tu perds ton temps. Personne n'ira parler ton jeu à moins qu'il soit un exceptionnel absolu et que les gens soient éblouis et que ça fasse une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Mais à part ça, tous les jeux qui ont marché sur Kickstarter ces dernières années, ce sont des jeux qui étaient connus avant d'arriver. Et donc, il y a un travail à faire qui n'a visiblement pas été fait. Et je veux dire, quand tu débarques sur Kickstarter et que t'as la chier de projets qui sont déjà là, c'est très difficile de ressortir. Donc, il faut absolument avoir des gens qui sont là pour relayer ton message à toi, en fait.
Voilà. Et vu que ce sont des Français, bon, ils auraient peut-être pu contacter, genre, Gamekult, jeuxvideo.com, pour leur faire de la promo, quoi. Ils auraient pu peut-être, est-ce qu'on peut venir dans vos émissions, on va parler de notre jeu, tout ça, faire une démo en direct. Peut-être que ça n'a pas été
accepté.
C'est peut-être
déjà fait, et oui, ça n'a pas été accepté.
Ouais, ouais bah parce qu'il faut voir une chose aussi, hein. Le problème, c'est que les journalistes, ils reçoivent combien de mails par jour?
Ouais.
Si t'es personne, pourquoi ils parleraient plus de ton jeu que d'un autre, tu vois? Et surtout, pourquoi ils liraient ton mail plus que celui d'un autre? Ils en reçoivent 12 000 des mails, à moins d'avoir une chance sur le GD, je veux dire. voilà, c'est pour ça qu'il faut être connu au préalable, en fait. Alors, j'ai bien conscience que ce que je dis, c'est un peu facile, etc. Mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, il faut avoir un community manager qui va aller parler de ton jeu sur les forums, qui va aller sur Reddit, qui va présenter le jeu, etc. Il faut faire des vidéos régulièrement. C'est un peu comme un YouTuber, tu sais, qui essaye de se monter une communauté, quoi. Faut être régulier. Et ça, c'est de l'investissement, des moyens que tout le monde, malheureusement, n'est pas en mesure de faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très dur d'être indépendant. Parce que, pour ressortir, voilà, quoi. En plus, c'est que la première étape. Parce que, une fois que t'as financé ton jeu, il faut le sortir sur Steam et qu'il passe pas inaperçu, quoi. Donc, ouais, c'est vraiment très, très, très difficile. Sinon, un petit mot au passage. Si jamais ça n'aboutit pas, je vous invite à rejeter un œil sur un autre projet qu'on avait évoqué ici, dont on n'a pas de nouvelles et j'espère qu'il aboutira. C'est Tale of Ronin, qui pour le coup a une autre direction artistique, pour qui est pas franco-belge, mais qui a quand même un truc très marqué, et qui est aussi un RPG sur le Japon médiéval, en 2D, vu de côté, etc. Assez classieux. Je vous propose qu'on passe au Nintendo Direct, messieurs.
Ouais.
Ouais.
On va maintenant faire le listing de toutes les annonces, mon cher Moran. Mm-hmm. Il y en a pas mal, mais vous allez voir, bon, c'est pas des annonces majeures. Hein.
Ouais. Mais c'est pas pour rien, en fait, que ce Nintendo Direct n'est pas un Nintendo Direct classique, mais un Nintendo Direct mini. On savait même pas que ça existait, mais voilà, ça existe. C'est visiblement voilà une appellation qui a été faite justement pour éviter qu'on dise ah ouais, mais il y a pas grand chose en fait qui arrive. Et donc du coup voilà, il y a un certain nombre d'annonces qui ont été faites qui sont à plus ou moins long terme. Laissez-moi vous lister tout ça et puis après on en parlera sur quelques-uns. Première chose, Céleste, un jeu en 2D qui sort le 25 janvier, donc c'est très bientôt. Alors à savoir que c'est pas exclusif à la Switch, hein, ça va sortir sur Switch, PC, Mac, Xbox One et PS4, donc voilà, vous inquiétez pas, si vous avez vraiment envie de jouer à ce jeu-là, ça sortira ailleurs. Autre jeu qui est déjà sorti ailleurs, c'est Fée, l'IA original, qui sort sur Switch le 16 février. Également un portage d'un jeu DS qui s'appelle The World Ends With You.
Excellent jeu.
Voilà, on n'a pas spécialement de date en dehors que ça sort pour 2018, donc un portage refait plus un ajout d'une nouvelle quête pour The World Ends With You. Autre chose, ah oui, on l'a pas ajouté d'ailleurs, mais il y a eu l'annonce d'un DLC pour Mario Lapin Crétin avec le personnage de Donkey Kong. Super Mario Odyssey qui s'offre un petit mode en ligne qui est assez simple. En gros, vous allez cacher dans un des mondes de Super Mario Odyssey un ballon et ensuite en ligne, des joueurs peuvent aller le rechercher et ont un temps donné pour aller le trouver. Donc c'est un mode cache-cache qui n'est pas dû en ligne en temps réel si vous voulez. Vous faites une espèce de petite mission.
On va peut-être trouver des choses un peu plus consistantes. Hein,
voilà, donc c'est pas très consistant. Voilà. Vous imaginez pas un mode en ligne à la Mario Kart, quoi. Autre portage, c'est Is 8 qui sort à l'été 2018 sur Switch. À noter que la version PC c'est pour le 30 janvier et que c'est déjà sorti sur PS4, il me semble. Je sais pas si c'est sorti sur Xbox One. Autre chose, un jeu de combat qui s'appelle SNK Heroine Tag Team Frenzy, un jeu du fan service s'il en est. Été 2018 également. Hyrule Warriors Definitive Edition, puisqu'a priori Fire Emblem Warriors ça s'est pas trop mal débrouillé, donc ils font un portage Switch de ce jeu qui était sorti sur Wii U et 3DS il me semble. Ça c'est pour le printemps 2018. Autre portage, décidément, et on en parlera tout à l'heure, un jeu Wii U qui arrive sur Switch, c'est Donkey Kong Tropical Freeze, c'est le 4 mai 2018. Un jeu, et là ça y est, on passe enfin à des jeux qui sont nouveaux et exclusifs, c'est Kirby Star Allies, ça sort le 16 mars 2018. Il me semble qu'on en avait déjà un petit peu vu à l'époque de l'annonce de la Switch et de l'E3, mais on savait pas exactement quand est-ce que ça allait sortir, et ben ça y est, c'est dans 2 mois. Et dernière chose, parce qu'évidemment une console Nintendo sans un Mario Tennis n'est pas une vraie console Nintendo, et bien voilà, Mario Tennis Aces, donc c'est bien un Mario Tennis nouveau, ce n'est pas un portage de la Wii ou de la Wii U, je ne sais quoi. Ça sort pour le printemps 2018, sans plus de précision. Mais voilà, donc ça c'est tout pour le Nintendo Direct Mini, qui faisait quand même une petite vingtaine de minutes, et bien sûr on a déjà parlé de l'annonce de Dark Souls Remastered, qui sort également sur Switch le 25 mai prochain. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce Nintendo Direct Mini ?
Alors, personnellement, je retiendrai deux jeux. Le premier, c'est Celeste, c'est fait par les développeurs de Towerfall, pour une raison. Parce que, à la base, je le rappelle, c'est un jeu de plateforme avec plus de 600 tableaux. C'est un jeu de plateforme hardcore. Donc, jusque-là, rien de bien original. Ce qui m'a totalement charmé sur ce jeu, c'est la bande-son qui est une pure tuerie, putain, mais une tuerie absolue. Je la mettrai d'ailleurs en introduction du sujet, vous verrez. Moi, je suis déjà amoureux. Ensuite, juste, je le remets en avant parce que c'est vrai que je l'avais pas remarqué, mais il le mérite. C'est The World Ends With You, si vous ne l'avez pas fait sur toutes les versions qui sont déjà sorties, faites-le. C'est un des jeux les plus originaux jamais sortis par Square Enix. Tu sais, c'est un peu comme Okami, c'est un peu ces jeux mal aimés qu'on essaie de ressortir à chaque fois, etc. Mais avec une ambiance un peu japonaise pop, et franchement, c'est super cool.
Voilà, ouais, je te rejoins là-dessus, c'est vraiment la surprise de ce Nintendo Direct Mini, finalement. Tout le reste, c'est finalement des choses qui étaient relativement attendues, même Dark Souls, puisqu'il y avait eu pas mal de leaks avant l'annonce. Et c'est vrai que The World Ends With You, moi je m'y attendais pas du tout à ce que ça soit remasterisé, et pour le coup, c'est pas un jeu que j'ai fait à l'époque sur DS, donc je vais pouvoir me laisser tenter. Et même chose pour Celeste, parce que vous savez que j'aime bien les jeux de plateforme, donc il y a moyen que je me laisse tenter également. Je reviens aussi sur un jeu de plateforme, alors pour le coup c'est un portage, mais moi qui n'avait pas la Wii U, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse finalement sur la Switch, c'est des jeux que j'ai pas pu faire puisque j'avais pas fait l'investissement, qui arrivent finalement sur Switch, et c'est Donkey Kong Tropical Freeze. Moi j'avais adoré Donkey Kong Country Returns à l'époque sur Wii, et il paraît que Tropical Freeze est très très bon aussi, donc voilà, c'est un des jeux que j'attends pour le mois de mai. Dwayne, est-ce que tu as des choses qui t'intéressent dans ce Nintendo Direct Mini ?
Bah oui, oui, effectivement, il y a déjà Mario Tennis, parce que c'est un peu... Enfin, il y a eu celui sur Wii U qui était Ultra Smash et qui était ultra naze également.
Direct comme ça.
Non, non, franchement, en plus, c'est la même équipe, enfin, parce que Camelot, c'est un studio, justement, qui s'occupe de tous ces jeux sport, Mario... Ouais. Depuis très longtemps déjà.
Ils font le golf aussi, ouais.
Voilà, exactement. Et en fait, je pense que lorsqu'ils ont sorti celui sur Wii U, enfin, la Wii U était déjà sur cette pente descendante où on savait que ça allait pas fonctionner, ils ont pas eu le temps et les ressources nécessaires. On leur a juste dit « sortez un Mario Tennis rapide, histoire qu'on ait un truc à se mettre sous la dent », mais ils ont pas mis le temps et puis les ressources qu'ils mettent d'habitude. Ouais. Donc là, voir qu'il y a un vrai Mario Tennis avec un mode solo, ça c'est vraiment sympa. En plus, que ce soit visuellement ou dans les différentes idées de gameplay, ça a l'air assez fun, même si bon, il y a quelques recyclages de la version Ultra Smash, par exemple, le premier monde qu'on voit. Même la version Ultra Smash, on voit, juste petit détail, ils ont même pas de tenue différente, c'est-à-dire qu'on a Mario et Luigi en salopette classique qui jouent au tennis, là. Par exemple, là, on voit qu'ils ont des tenues. Bon, c'est des petits détails, mais voilà. Et puis, Donkey Kong Tropical Freeze également, qui est un super jeu de plateforme à ce qu'on dit. Mais comme moi, la Wii U, c'était un peu ma machine que je dépoussiérais à chaque fois qu'il y avait des potes pour qu'on joue à Smash. C'était pas... Voilà. Et tout ce qui est portage, on en parlera un peu après. Et The World Ends With You, c'est bonne surprise. Moi, je l'avais. C'est pas un jeu que j'ai déjà fait, donc je testerai du coup sur la Switch. Et puis voilà.
Ok, donc tout le monde se fout de Kirby en fait.
Voilà, très clairement. Pixel, toi, par contre, je crois que tu avais une question.
Ouais. J'avais une question parce que j'ai vu l'annonce, j'ai vu les jeux, j'ai vu les sticks, mais il n'y a aucune annonce officielle, en tout cas dans ce Nintendo Direct Mini, concernant la 3DS. Voilà, il n'y a pas de jeu 3DS annoncé, ni de nouvelle version de la 3DS tout court, j'ai envie de dire.
Ouais, mais ça, j'ai envie de dire, c'est pas le lieu pour annoncer une nouvelle version de la 3DS. Surtout qu'en plus, il y en a une très très récente, hein, quand même, la New 2DS XL, qui est sortie, il y a même pas 6 mois. Mais effectivement, en fait, en introduction du Nintendo Direct Mini, le présentateur, en fait, a directement dit que, voilà, tout ça, ça serait des annonces sur Switch. Et donc du coup, bon bah voilà, la 3DS un petit peu sous le tapis, c'est quelque chose qui, pour le coup, était pas spécialement étonnant.
Bah surtout qu'elle est un peu morte là, non?
Ouais, c'en est la confirmation.
Il y a eu des dernières annonces à l'E3, puis voilà, un tour et c'est puis ça. S'en va quoi.
Non mais c'est intéressant parce que si tu regardes nos discussions il y a un an, ou justement à l'époque, parce que c'est quasiment un an jour pour jour que la Switch s'est véritablement révélée au grand public, on se posait la question justement s'il y aurait cohabitation entre la 3DS et la Switch, et bah voilà, un an après, je pense qu'on commence à avoir des éléments de réponse, quoi.
De toute façon, on le savait, Nintendo attendait de voir si la Switch marchait, pour savoir s'ils allaient annoncer le successeur de la 3DS, parce que je suis sûr qu'ils en avaient un dans les cartons, ouais. Au cas où, parce qu'ils sont pas fous quand même. Et ils ont vu que la Switch marchait, voilà, bon, c'est acté maintenant, la 3DS elle est morte, et puis on passe à autre chose. Et puis, de toute façon, vu la durée de vie de la console, je veux dire, c'est pas déshonorant non plus, quoi.
C'est clair. Mais du coup, ça pose quand même une question de, est-ce que la Switch aura cette fameuse tendance de Nintendo de faire des rééditions de ses consoles? Là, en l'état, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à m'imaginer comment ils vont pouvoir quasiment tous les ans annoncer une nouvelle édition de la Switch. Est-ce que vous avez des idées là-dessus?
Moi, si tu veux, j'ai déjà des idées au niveau de la batterie. Hein.
Ouais.
Parce que la batterie, c'est pas exactement le fort de la Switch. Et puis même au niveau de la solidité, pour avoir vu mon neveu et ma nièce y jouer, oui, il va falloir faire des efforts quand même.
Donc tu penses plutôt quelque chose d'annoncer plutôt vers les enfants, en fait? Un format peut-être un petit peu plus petit ou quelque chose comme ça?
Voilà, parce que c'est quand même pas pratique. Hein, quand je vois ma nièce qui essaye de tenir cet énorme truc, c'est quand même pas pratique du tout. Hein. Enfin, par rapport à la 3DS, tu sais, qui tient dans les mains, c'est voilà quoi.
Clairement. Mais de toute façon, c'est exactement ça ce que tu dis, c'est-à-dire que on l'a vu dans la communication qui est pas habituelle pour Nintendo, c'était vraiment aux jeunes adultes, etc. Puis après, effectivement, il y aura, je pense, d'autres itérations de la Switch en elle-même, enfin comme on la connaît, mais également si la 3DS n'est plus viable, à ce moment-là, une version, comme tu l'as dit, de la Switch plus petite, plus solide, un peu moins chère, enfin... De la même manière qu'ils ont fait la 2DS pour un public plus jeune, ce même type de choses pour la Switch avec une version, pour le public que cible Nintendo, quoi.
Puis il faut pas oublier aussi que la Switch, c'est une machine à créer des accessoires, en fait. Parce que, avec le fait que tu puisses mettre tes Joy-Con à peu près sur n'importe quoi, c'est tout à fait possible. Par contre, si on imagine quelque chose avec un écran un peu plus petit, à ce moment-là, ça va être un truc qui sera quasiment uniquement portable, parce que finalement, comment tu veux docker un truc qui est plus petit sur le dock qu'on a à l'heure actuelle? Alors, est-ce que tu fais un autre dock à chaque fois que tu fais une nouvelle version? Ça paraît étonnant, mais pourquoi pas?
Bah après, pourquoi pas une plus petite version, et puis après que tu branches directement enfin à l'arrière du dock ou enfin à autre chose, mais effectivement une version totalement portable de la Switch plus petite.
Oui, et puis ce serait pas le premier constructeur high-tech à sortir des trucs qui sont incompatibles avec des précédentes versions, si je puis me permettre.
Ce qui est pour le coup quelque chose que Nintendo fait peu, l'air de rien. Ils ont toujours tendance à beaucoup faire en sorte que ça soit compatible pour tout. Alors, le contre-exemple, c'est la New 3DS. Enfin, du coup, il y avait des jeux exclusifs à cette console-là, on a vu le succès qu'ils ont eu, mais oui, pourquoi pas.
Bon, dernier sujet, le recyclage sur Switch, parce que bon, c'est bien gentil tout ça, mais Dwayne, si on regarde bien, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de jeux originaux, là.
Alors, le recyclage sur Switch, dans le sens où aujourd'hui, on a une nouvelle console qui arrive après, on va dire, un échec, mais total. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément de bons software sur la Wii U, et aujourd'hui on a une nouvelle console qui cartonne, qui est sur une dynamique extrêmement positive. Et qu'est-ce que Nintendo a décidé de faire, a priori, si on regarde la première année de la Switch et puis ce Nintendo Direct Mini? C'est un espèce de panaché, c'est-à-dire faire quelques nouveaux jeux avec beaucoup de rééditions, voire, si on prend Splatoon 2, une espèce de réédition cachée, parce que finalement, Splatoon 2 n'a de 2 que
Splatoon
le nom.
Splatoon 1 avec un 2
voilà.
dessus. Hein.
Ouais. Exactement. Moi, mon avis, ce que j'ai envie de dire, c'est un peu qu'ils ont raison, dans le sens où finalement, vu le peu de personnes qui ont fait tous ces jeux, on peut parler de ce qui est déjà sorti, mais il y a aussi les Mario Maker, le jeu Toad, je crois que c'était Treasure Tracker, ouais. Enfin, on peut même dire 3D World, finalement, mm-hmm. qui pourrait avoir une ressortie sur la Switch. Les ressortir, finalement, ça paraît être une bonne stratégie. Mm-hmm. Surtout...
Oui, alors, juste une remarque. Oui, ils ont raison de les ressortir, très bien, moi ça me pose aucun problème. Sauf que, pour le coup, si comme moi, t'es un gars qui a joué à ces jeux sur Wii, t'es encore puni par Nintendo, quoi, en fait.
Ouais,
parce
c'est
que
ça.
C'est gentil, hein, de ressortir ces jeux-là, moi j'ai aucun problème. Mais il faut en sortir des nouveaux aussi. Il y a 2 nouveautés dans le lot, là. Et en plus, pour peu que t'en aies rien à foutre de Mario Tennis, alors ce qui est pour le coup mon cas, et que t'en aies rien à foutre de Kirby, ce qui est encore mon cas, oui, bon, c'est pas demain la veille que j'y achèterai une Switch, personnellement.
C'est
hein.
ça.
Surtout que à côté, quand je parle de recyclage aussi, pour moi, il y a un autre problème, c'est que ça ne concerne pas que Nintendo. Moi, j'aime bien The World and Wii U, par exemple, tu vois, mais c'est un jeu qui a été sorti sur plein de consoles. Et... le problème, c'est que il y a plein d'éditeurs qui font ça.
Mais après, ça, c'est pas un problème uniquement lié à la Switch. C'est ça aussi. Ça, c'est juste l'industrie en général.
Non, non, ça, je suis pas d'accord. Je pense que ça touche spécifiquement la Switch. Pourquoi ? Parce que certes, ça arrive que l'industrie sorte des remasters, ça, on est d'accord. Mais à côté de ça, ils sortent des nouveaux jeux. Alors que sur Switch, je veux dire, à part Ubisoft, est-ce que vous voyez un éditeur qui sort des nouveaux jeux dessus ?
Non, mais ça c'est il y a aussi l'aspect je défends pas du tout hein, c'est juste je pense que c'est surtout par rapport à ça, c'est que c'est déjà dans un premier temps, ils étaient un peu tièdes au début, donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de développements qui ont été lancés, et en plus, il y a aussi le fait enfin je veux dire, moi j'achèterai jamais Wolfenstein ou Doom sur Switch. C'est pas pour moi la console pour ce type de choses-là.
Je suis d'accord, mais le problème, c'est que je suis quasi persuadé, on se donne rendez-vous dans un an, les éditeurs vont continuer à te sortir des remasters des générations précédentes sur Switch, parce que c'est un moyen de faire du pognon à moindre effort, et que après tout, ils le font sur les autres machines, donc pourquoi pas sur Switch. Mais par contre, à mon avis, les nouveaux jeux exclusifs à la Switch, vous pouvez vous brosser.
Ouais.
Parce que ce n'est plus dans la philosophie des éditeurs d'aujourd'hui, en fait, de faire des exclusivités pour une machine. Ça coûte tellement de pognon de faire des jeux pour des consoles d'aujourd'hui que je suis quasi persuadé que, à part Nintendo, tu n'auras pas d'exclusivité first party, sauf si c'est Nintendo qui met du pognon sur la table ou qui fait un partenariat pour le mettre en avant, comme avec Ubisoft, par exemple.
Mais comme avec Platinum Games aussi. Mais oui, je rejoins tout à fait Tyran là-dessus, en fait, c'est que... avant la sortie de la Switch, les éditeurs tiers ont mis en place la même stratégie qu'ils avaient sur la Wii U, c'est-à-dire dubitatif. Et maintenant que ça fonctionne, ils se disent OK, on n'est pas prêt. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, il faut quand même qu'on sorte. Donc, on sort des remasters, des anciens trucs remis au goût du jour ou même pas. Et on verra plus tard. Mais est-ce que ça les permet en fait de débloquer des ressources pour faire des développements sur Switch spécifiquement ? Je pense pas. Faut bien voir que un jeu qui est développé sur Switch, eh ben, il va pas sortir sur PS4 ou sur Xbox One. Ou un jeu qui est développé sur PS4 et sur Xbox One, il peut sortir sur Switch, mais dans les faits, est-ce que véritablement les gens vont l'acheter sur Switch? Je suis pas certain. Et on n'a pas encore les chiffres de vente de Doom, et encore moins de Wolfenstein 2 qui n'est pas encore sorti sur Switch. Mais je suis pas certain que ça soit vraiment lucratif pour eux. Donc dans les faits, je suis tout à fait d'accord avec toi, les jeux exclusifs à la Switch, ou les véritables nouveaux jeux sur la Switch, c'est Nintendo, quoi. Mais ça va pas être autre chose, en fait.
Bon, après, c'est pas une surprise.
Non, c'est pas une surprise, et de toute façon, quand on achète une console Nintendo, on sait très bien ce qu'on achète. Je pense que tout le reste, c'est du bonus. Tu vois, moi, à l'heure actuelle, je suis plutôt content parce que j'ai un PC et j'ai une Switch, j'ai pas de PS4, j'ai pas d'Xbox One, et le fait qu'il y ait quand même... des choses qui arrivent sur Switch qui soient plutôt des nouveautés, par exemple Fae, je l'ai pas fait, c'est cool pour moi aussi, tu vois, parce que si jamais un jour je me prends l'idée de le faire, bah je l'achèterai sur Switch, tu vois. Le problème de la Switch, en fait, c'est que elle fonctionne, c'est bien, mais il y a l'effet, en fait, ce jeu-là, mais sur Switch, c'est-à-dire que jouer à ce jeu-là, mais en fonction portable.
ta principale source de jeu, en fait, ça va jamais être la Switch pour un jeu qui est autre que Nintendo, en fait.
Oui, et sauf que le jeu, en plus, il a pas été conçu pour une expérience portable.
Exactement. Du coup, en fait, on est dans un truc où, effectivement, tu dis, ah tiens, ça serait cool de jouer à ça sur Switch, mais dans les faits, tu joues sur un autre support, en fait.
Ouais, bah, moi, enfin, je dis ça surtout par rapport à mon utilisation personnelle et celle que je trouve la plus viable pour cette console-là, c'est-à-dire que effectivement faire des nouveaux jeux, mais je veux dire, à part Ubisoft qui a une relation privilégiée avec Nintendo, c'est vrai que les autres, enfin je vois mal EA ou Bethesda ou autres faire des jeux exclusifs, déjà parce que ce sera pas viable financièrement.
Ou ça reste à discuter. Hein.
Non, enfin ce que je veux dire c'est qu'ils ont pas forcément l'expertise pour le faire et que ce sera pas un pari sûr, parce que c'est vrai que c'est surtout Ubisoft qui travaille sur ça. Après oui, ben, c'est quelque chose qu'ils pourraient faire. Mais je pense pas que ce soit dans leur optique. Et oui, voilà, comme on l'a dit, effectivement, faire des petits portages et prendre un peu de thunes rapidement, c'est plus ça qu'ils ont envie de faire.
Mais tu vois, moi, je pense qu'il y a une véritable place à prendre justement à côté de Nintendo sur la Switch, parce que si tous les éditeurs se mettent à faire juste des portages, il y a quand même un moment où les gens, ils vont plus acheter que des productions Nintendo. Et si quelqu'un se sort les doigts du cul pour faire des développements qui sont pas des productions à budget triple A, donc voilà, des budgets qui sont réduits.
Oui, parce qu'il faut bien voir que techniquement, la Switch, c'est pas la One ou la PS4, quoi.
Exactement. Si quelqu'un se décide à se dire, bah tiens, finalement sur Switch, bon, certes, j'ai un parc installé qui est moins grand, et de fait, j'ai des possibilités de portage, enfin de multiplateformes qui sont très limitées, voire inexistantes, je fais un budget qui est beaucoup moins grand, mais je propose quelque chose qui est exclusif à la Switch, et dans ce cas-là, j'ai le potentiel de parler à l'intégralité du parc installé de la Switch.
Mais de toute façon, Ubisoft a montré que c'était possible. Après, bon, c'est un peu biaisé parce qu'il y a Mario dans leur jeu Mario Lapin Crétin, ouais. Mais
moi, je suis persuadé qu'il y a moyen de se créer une place au soleil.
Bien sûr.
Ok. Bon, allez, c'est tout pour Nintendo cette semaine, messieurs. On va passer à notre jeu du moment. Et notre jeu du moment, c'est The Forest. Bon, Pixel, on va faire simple.
Oui.
The Forest, c'est quoi ?
The Forest, c'est un jeu de survie à la première personne où on peut jouer soit en solo, soit en multijoueur. Le multijoueur, je tiens à le dire tout de suite, c'est pas de la compétition genre PUBG, c'est de la coop, hein, uniquement de la coop.
D'accord.
Je tiens à dire aussi que pour le multi, on peut créer ses propres serveurs privés, que les développeurs sont au courant et qu'ils laissent faire.
D'accord.
C'est plutôt une bonne chose. Alors, The Forest, c'est un jeu en accès anticipé depuis le 30 mai 2014. On est en 2018, donc ça va bientôt faire 4 ans qu'ils sont en Early Access. C'est un jeu que j'ai acheté dans ses débuts, en fait, et je l'ai vu au fur et à mesure des années évoluer.
D'accord.
Parce que la première version à laquelle j'ai joué, il y a quelques années, n'a rien à voir avec celle que j'ai jouée récemment. Il y a eu un énorme gap d'amélioration entre les versions. C'est un jeu qui, malgré le fait qu'il soit toujours officiellement en accès anticipé et en alpha, il est dans un état proche de la version gold, j'ai envie de dire, parce que le jeu dispose d'un scénario qui est complet. Il y a un début, un milieu et une fin. Il y a des achievements. Le jeu est généralement bien optimisé pour ce qu'il présente. Et voilà quoi, c'est un jeu qui est proche d'être gold. Et il est vendu à un petit prix, 14,99€ sur Steam. Il est disponible que sur PC en tout cas pour l'instant.
D'accord. Alors moi je voulais te poser une question. Donc tu l'as dit, c'est un jeu de survie avec de l'horreur, mais quand on parle de survie, attention, c'est pas survival horror Resident Evil, non. Tout ça, c'est pas une aventure linéaire où tu vas gérer tes ressources ou que tu vas retrouver au fur et à mesure en évoluant dans le couloir, on va dire. Là, voilà. C'est un jeu où t'es largué sur une map et c'est de la survie moderne, c'est-à-dire que tu vas construire des trucs, tu vas récolter des ressources et ça du coup, est-ce que cette survie-là, elle fonctionne bien avec le côté horreur du titre? Parce que moi, il y a un truc qui me fait peur, par exemple, c'est le fait que la récolte de ressources, entre guillemets, ça casse complètement le côté horrifique du truc, quoi.
Alors, pour te répondre, le mode histoire et la survie, ils sont à la fois, j'ai envie de dire, complémentaires d'un côté, mais complètement séparés de l'autre.
D'accord.
Parce que, en fait, le scénario, je l'ai pas expliqué, mais je vais te le dire, il est extrêmement simple. C'est que tu es dans un avion avec ton fils, l'avion se crache, tu te réveilles, tu vois ton fils kidnappé par un être étrange, et donc le but du jeu, c'est de retrouver ton fils sur l'île.
D'accord.
Il est quelque part caché sur l'île. Et l'île est très très grande, elle est coupée en deux parties, en fait. J'ai envie de dire qu'elle est composée à 70% de forêts, pas des forêts de type équatorial, hein, c'est des forêts, on va dire, de type européenne. Et les 30% restants, c'est une partie au nord qui est glacée, où il y a de la neige, où il fait très froid, et où il n'y a pas grand-chose à y faire, malheureusement, bien que le jeu soit proche d'être complet, en fait. J'y suis allé plusieurs fois dans les dernières versions, et sur cette version la plus récente, il n'y a toujours pas grand-chose à y faire. Il y a très peu d'ennemis, il y a très peu d'animaux à chasser, etc., etc. Mais oui, c'est-à-dire que tu peux ne pas finir le scénario, en fait, parce que finalement, pour aller à l'endroit où se trouve ton fils, c'est quand même... Les développeurs, ils ont bien fait leur truc. L'endroit est tellement bien caché que tu peux passer à côté sans le voir, et finalement, tu peux passer ton temps juste à survivre, à récolter des ressources, à combattre des cannibales, parce que tu vas combattre des cannibales. Tu vas combattre aussi des monstres bizarroïdes de tout difforme. Et il faudra bientôt stuffer quand tu voudras partir à la découverte des caves, parce qu'il y a des caves souterraines dans le jeu. T'as plusieurs entrées, plusieurs sorties, avec des entrées et des sorties absolument partout sur la carte.
Mais c'est quoi ton intérêt à explorer les caves, en fait? C'est retrouver ton fils ou...
Alors, tu peux récupérer déjà beaucoup plus de stuff. Beaucoup plus de choses qui étaient dans l'avion ramenées par les cannibales, en fait, dans les caves. Donc tu vas récupérer du matos plus moderne, entre guillemets. Même s'il n'y a pas d'arme à feu. Il existe un pistolet, mais c'est un pistolet à poudre, qui est très peu précis d'ailleurs. C'est pour ça qu'il est très peu utilisé par les joueurs. Mais sans quoi tu récupères des canettes de soda, par exemple.
Oui, donc en gros, l'intérêt d'aller dans les caves, c'est de la récolte de ressources, quoi.
La récolte de ressources, mais aussi des armes.
D'accord.
T'as des armes que tu ne pourras récupérer que dans les caves.
Parce que là, si tu veux, ce que tu me décris, bon, jeu de survie classique, hein, rien de bien original. Du coup, j'imagine que le côté original, c'est le côté horrifique du truc. Est-ce que ça marche?
Alors, ça marche parce qu'en fait, le jour, tu vas récolter des ressources, tu construis ce que tu veux construire, tu construis des habitations, tu construis un feu de camp, tu construis une cabane si t'en as envie. Dès les premières minutes, tu as un livre de survie avec toi qui te montre tout ce que tu peux créer. C'est là que vient l'originalité du jeu. Dans les autres jeux de type survie, en fait, quand tu veux créer des choses, t'as tout de suite un menu avec une interface utilisateur très carrée, avec des cases partout et ça
oui,
te sort.
Quoi.
Voilà, ça fait un peu Minecraft, sauf que là, quand tu vas dans ton inventaire, en fait, tu déballes ton sac à dos et tu vois tout ce qu'il y a dans ton sac à dos et ça brise pas le quatrième mur, comme on dit. Tu restes bien dans le jeu, bien focalisé dans le jeu.
Le jeu se met pas en pause, j'imagine, quand tu regardes dans ton sac à dos.
Si, si, il se met en pause.
Ah.
Et heureusement, parce que malheureusement, le seul moyen de changer d'arme, c'est d'aller dans ton sac à dos et de
ouais,
prendre une arme.
Mais ça, je trouve, ça casse l'immersion, en fait. Tu fais pouce, attends, excuse-moi, je vais chercher mon fusil à pompe, hein, une seconde. Je le sors, hein, attends une seconde.
Non, ça casse pas l'immersion, justement, parce que les combats sont pas faciles. Les cannibales sont ultra rapides et ils sont pas cons. C'est-à-dire que s'ils te voient de loin, ils vont pas t'attaquer tout de suite. Ils vont d'abord t'observer et parfois, ils vont rester devant toi puis ils vont pas trop bouger.
Ça, c'est
alors,
un jeu pour moi,
ah mais moi je déteste ce jeu moi. C'est il me fait flipper mais sursauter mais j'y ai beaucoup
ouais.
joué moi à l'époque hein. C'est
ouais.
horrible, j'ai arrêté d'y jouer parce que il me faisait beaucoup trop flipper.
Ouais, et surtout en fait, il pousse des cris horribles
comme moi.
Tu les entends arriver de loin. Tu les entends arriver de loin, et si t'essayes de t'échapper, les mecs, vu qu'ils sont plus rapides, bah, ils te tapent dans le dos, ils te rattrapent. Ou alors ils essayent de te contourner s'ils y arrivent. Donc ils sont pas si con-con que ça, mais bon, une fois que t'es au corps à corps, il suffit de bien les spammer, et t'arrives généralement à les abattre.
Puis ils ont peur du feu aussi.
Et ils ont peur du feu, donc il faut toujours utiliser le feu. Une fois que tu les as tués, ils lâchent leurs armes et tu peux les récupérer et les mettre dans ton inventaire, donc ça c'est cool. Au niveau du craft, en fait, ce que j'avais pas dit tout à l'heure, c'est que le craft, il est basé sur des choses simples, quoi. C'est pas des trucs super alambiqués, c'est genre, pour créer une lance, tu prends deux bouts de bois, tu les fusionnes, et ça y est, t'as une lance. Si tu veux créer une hache, tu prends un bout de bois, tu prends une pierre, tu prends un bout de corde, ça y est, t'as une hache rudimentaire qui va te permettre de couper des arbres.
Oui, bon, ça, c'est assez classique. Hein, dans le genre,
ça, c'est classique, mais ça marche. Enfin, c'est basé sur l'intuition. C'est pas le jeu qui va dire, attention, pour créer ça, ça ou ça, tu vas devoir faire ça. Sauf pour les assets du jeu, pour les fondations de ta maison, tout ce que tu veux. Là, le jeu te dit exactement ce que tu dois faire. Et au niveau de la survie, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, tu peux être sujet aux infections, parce que si tu butes les ennemis, tu vas être recouvert de leur sang, et vu qu'ils sont un peu plus ou moins contaminés, tu vas être infecté, donc il faut te plonger dans l'eau pour te laver. Mais si tu fais ça la nuit, par exemple, eh ben, il fait froid, donc tu vas ressortir mouillé, donc tu vas mourir de froid, donc il faut te réchauffer, et donc créer un feu de camp. Et il faut faire attention au feu de camp, parce que si tu te rapproches trop, tu vas te brûler, et pour enlever le feu, bah, il faut de nouveau te plonger dans l'eau. Donc, tu peux être sujet aux maladies, si tu manges de la viande avariée, par exemple, tu vas dépecer des animaux, tu vas récupérer leur viande. Si tu attends trop longtemps, la viande va être avariée, tu peux toujours la manger en la brûlant sur le feu de camp. Mais tu vas tomber malade. Si tu manges des baies non comestibles, tu vas tomber malade aussi. Bon, il y a une chose qui me dérange dans le jeu, c'est que pour l'instant, ils ont pas implémenté le manque de sommeil. Tu peux créer un lit pour dormir, mais ça ne fait que passer le temps. Ils l'ont jamais réglé, ça. Je sais pas si ça va être réglé pour la version finale, mais pour ça, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, je dois dire.
Je remarque que tu parles beaucoup de mécanique, mais que tu ne parles pas beaucoup d'histoire et d'ambiance. Elle est présente ou c'est anecdotique?
Alors, je sais pas, là, peut-être pour le coup qu'ils ont emprunté à la série des Dark Souls, mais il y a une explication du lore du jeu, un peu à la Dark Souls. Tu vas récupérer des documents qui vont t'en apprendre un peu plus sur le jeu. Alors, ça peut être des photos, ça peut être des morceaux d'articles de magazines, mais il y a très très peu de texte, en fait. C'est surtout par l'image qu'ils vont te raconter le lore. Mmh. Et il y a une seconde histoire, en fait, parce qu'il faut que tu récupères ton fils. Mais l'histoire de cette île et la présence des cannibales est aussi expliquée. C'est classique, on croirait un film un peu genre une série B direct ou vidéo un peu sur Energy 12, mais vu la façon dont c'est expliqué, je veux dire que, ok, là j'accepte, c'est quand même bien fait, et j'ai envie d'en apprendre plus à chaque fois que je récupère des bouts de scénario en fait, avec les objets du jeu, j'ai envie d'en savoir toujours un peu plus pour savoir ce qui s'est passé, parce que tu te rends compte en fait que cette île a une histoire qui est quand même très ancienne et que t'es pas le premier à t'y échouer en fait.
D'accord. Pour terminer... Techniquement, on en est où?
Alors, ça fait bientôt 4 ans que le jeu est en développement, et comme j'ai dit tout à l'heure, il est dans un stade qui est quasi terminé, très bien optimisé. J'ai vu très peu de bugs, j'ai pas le souvenir que le jeu ait crashé une seule fois. Le jeu est bien optimisé, mais il faut quand même une machine assez élevée, enfin une carte graphique assez récente, j'ai envie de dire, genre GTX 770 au minimum. Je conseille plutôt une GTX de série 9 ou l'équivalent hein, chez AMD avec 4Go de mémoire vidéo parce que le jeu bouffe quand même pas mal de ressources et ouais avec 8Go de RAM et un CPU à 3Go quad-core vous êtes tranquille, le jeu vous pourrez pas forcément tout le mettre à fond parce que le jeu est pas encore optimisé à fond mais le jeu est quasi complet, il y a des achievements, il y a le scénario, il y a une fin, il y a tout.
Mais du coup ils ajoutent quoi en fait dans leur mise à jour?
Bah, c'est des corrections de bugs, c'est des optimisations à droite et à gauche, c'est ils rajoutent des choses à crafter, ils améliorent l'IA, ce genre de choses.
Okay.
Bon, je vais pas vous mentir, c'est que vu que ça fait maintenant 4 ans qu'il est développé, le jeu est toujours en alpha. Là, d'après ce que j'ai compris en lisant les messages sur la poste du jeu sur Steam, ça va passer cette année en bêta. Le problème, c'est que si le jeu passe encore une année en bêta, j'ai envie de dire, vu l'état de finition du jeu, les développeurs, ils se reposent un peu sur leur laurier, quoi.
Mmh.
Parce qu'on sait que depuis des années que les early access sur Steam, c'est parfois pour certains développeurs un peu margoulin sur les bords d'avoir une rentrée d'argent frais de façon plus ou moins régulière, quoi. Et pas sortir le jeu. Alors le jeu, il en est pas là pour l'instant, mais vu que ça fait 4 ans, ça commence à faire long.
Bah, c'est surtout que là, t'arrives un peu à un stade où j'ai l'impression que en termes de contenu, t'auras pas grand chose de nouveau.
Ouais.
Pour peu que t'aies suivi le jeu jusqu'ici, en fait, tu commences à avoir fait le tour de la question. Et le problème, c'est que la release est pas encore là, donc s'il passe encore un an à le débugger, j'ai envie de dire, est-ce que d'ici un an, les gens qui ont pas mal joué, ben ils en auront fait tour et puis ils ont pas le besoin de le relancer en fait, tout simplement quoi. Parce que si peut-être. C'est que de la correction de bugs, bon, c'est bien, hein, mais.
Enfin, pour moi, ça changera pas grand-chose vu que ça fait des années que je l'ai acheté, donc ça fait des années que j'y joue, mais. Par intermittence, hein. J'attends quelques mois le temps qu'il fasse une nouvelle release et je le réinstalle et je vois les optimisations, enfin s'il y en a ou pas. En 4 ans, il y a eu des vrais efforts, hein, parce que j'ai vu le jeu, la première fois que j'ai joué, il y a 3-4 ans, c'était super austère, il n'y avait pas d'achievement, le passage enneigé, tu pouvais pas y accéder, il y avait un message qui te disait non, désolé, c'est pas accessible pour l'instant, il n'y avait pas de scénario, il n'y avait pas de fin, il y avait très peu d'armes à crafter, l'IA était complètement teubée, c'était pas optimisé, ça ramait à fond. En 4 ans, ils ont fait des efforts, d'énormes efforts, mais maintenant, il faudrait qu'ils le sortent, leur jeu.
D'accord.
Voilà, et une dernière chose à dire, c'est que pour l'instant, le jeu, il est à 15€, mais quand le jeu, il sortira en gold, s'il sort un jour, il sera plus cher.
Oui, bah ça, c'est classique. Hein. Ça.
Mais en l'état, oui, je peux le conseiller. Et si les gens ont encore des doutes, vous pouvez toujours aller regarder des vidéos de gameplay sur YouTube, mais le jeu, en l'état, il est... quasiment terminé et il mérite d'être joué.
En plus, par rapport à ce que tu dis, moi j'ai l'impression aussi que les développeurs se complaisent un peu en fait dans le système de l'early access, dans le sens où
ah mais complètement.
En gros, le jeu est déjà terminé. Là, en plus, je regarde, ils sont à quoi un peu plus de 3,5 millions de ventes, donc ça a l'air plutôt rentable, voilà. Et ils se disent voilà, ils ont pas envie de se prendre les tests. Là, ils sont bien avec les joueurs qui à chaque fois disent ah ouais, il y a une bonne avancée, donc d'autres personnes le prennent. Ça avance bien, c'est presque terminé et ils se complaisent en fait dans cette communauté au lieu de vraiment réellement sortir le jeu, se confronter
aux vrais
tests.
Cela dit, je tiens à temporiser un peu ça en ce sens que le jeu est quand même très bien noté pour un jeu en accès anticipé.
Ouais, bien sûr, hein, je suis d'accord.
93% d'avis positifs.
Non non, mais justement,
Steam,
je dis pas ça dans le sens vraiment négatif, je dis plus que justement comme ça fonctionne bien, eux ils font ça de manière honnête, mais ils se disent bon bah on continue vu que ça fonctionne, tu vois, ils se disent pas bon on va le sortir, on va se prendre tous les tests machin, ils sont bien dans leur aspect un peu plus communautaire, un peu plus restreint et qui a l'air plutôt rentable quoi.
Oui bah moi je dirais plutôt qu'ils sont bien dans l'aspect chat perché. Hein. Ah non, j'ai en accès anticipé, perché.
Ouais ouais voilà, c'est exactement ça.
On le sait hein, quand un jeu tu le sors d'accès anticipé, en général la note est baisse. Voilà. Les critères sont pas les mêmes.
Bah oui c'est ça.
Et qu'il y a des choses que tu tolères en accès anticipé que tu ne tolères plus dans un jeu qui est sorti. Bref, écoute, on espère qu'il sortira. Allez, on parie sur fin 2018. Pixel.
Ouais, allez, on va dire 2018 tout court.
On espère qu'il sortira cette année et que, bon, en tout cas, ça a l'air prometteur. Au moins, tu vois, c'est un jeu de survie, mais avec une ambiance et une histoire. Et ça, c'est suffisamment rare pour être noté. Bon, messieurs, on s'arrête là pour cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao à tous.
Salut tout le monde.
My Morito is ready.